France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, les adieux de Sylvie Vartan, deuxième partie. À 80 ans, Sylvie Vartan a décidé de faire ses adieux à la scène. Après 3 soirs en novembre dernier au Dôme de Paris, ex-Palais des Sports, les ultimes dates ont lieu au Palais des Congrès, ces 24, 25 et 26 janvier. C'est l'occasion pour nous d'évoquer son formidable parcours entamé en 1961 à l'âge de 16 ans et demi. En dépit de son ascension fulgurante, largement soutenue par l'émission « Salut les copains » sur Europe 1, Sylvie Vartan est durant ses premières années de carrière décriée par une partie du métier et du public, au point que ses nombreuses tournées sont émaillées de certains incidents. Une de ses qualités étant la persévérance, ses progrès notables sont néanmoins remarqués de saison en saison. Sa première tournée, du printemps 62 avec Gilbert Bécaud, leur a permis de faire connaissance. Ce compositeur-interprète génial, qui électrisait le public de l'Olympia dès sa réouverture en Music Hall en février 1954, était surnommé « Monsieur 100 000 volts ». Deux de ses chansons ont d'ailleurs servi par la suite de titres à des magazines et à des émissions de radio, « Salut les copains » ou de télévision, « H tendre » et « Tête de bois ».
Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle, devinez. Je pars en vacances.
Oh,
salut les copains. Voyez, j'ai mauvaise mine. Les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Je vous aime bien, mais comprenez quand même, le ciel de Pantin est pauvre en oxygène. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Me voyez-vous sur des gondoles, entraînées au fil des canaux, de tarentelle en barcarolle, dansant le soir au bord du Lido, marchant sur le pavé de Rome, comme un Anglais aux Champs-Élysées. Là-bas je serai un autre homme, là-bas je serai l'étranger qui viendra visiter.
Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît masqué, comment deviner qu'ils s'aiment? Ils jouent des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Ils ne se sont jamais dit le plus petit mot d'amour. Ils se baladent dans la vie en copains de toujours. Ils pensent que c'est démodé de se l'avouer qu'ils s'aiment. Ils ont des joues de gamin, mais leur cœur est déjà loin. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Ils vont tous les jours au cinéma. Quand ils sortent du ciné, ils prennent un Coca-Cola. Et comme des habitués, ils écoutent la machine qui fait. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons.
Alors je vais vous dire tout de suite, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai regardé un magazine sur lequel il y avait écrit une chose que j'ai pas compris, d'ailleurs je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai vu Gilbert Bécaud lancer un défi au yéyé. Alors moi, je veux bien, moi, ça m'est égal. Mais sachez une bonne fois pour toutes que j'en suis un peu le... J'en suis un peu le grand frère et je suis très frère des yéyés, vous comprenez. Oui, mais... Alors, je sais pas ce que vous pouvez penser ou ce que les magazines peuvent raconter, mais moi, personnellement, j'aime bien les yéyés. Alors, je sais pas où vous voulez partir avec la conversation, mais je vous le dis tout de suite.
Non, parce que nous, on aime mieux Béco que les yéyés. Enfin, c'est une
opinion personnelle. Je vous remercie. Mais moi, j'aime bien les yéyés. Alors
et puis
ça...
alors, on se dit qu'après tout, ben, gueuler sur une scène...
Non, mais ça, c'est une question
bon,
de...
mais seulement...
Moi,
seulement...
je trouve que les certains yéyés font parfaitement leur travail. Ils le font très
oui,
bien.
Oui, oui, d'accord.
Johnny Hallyday, par exemple, travaille très bien. Il fait son boulot formidablement. Et une jeune fille qui s'appelle Sylvie Vartan, oui. Que le public a pris à rebours depuis sa naissance, hein, eh bien, moi, je vous dis que c'est une fille qui est... Très bien.
Bon, bah, écoutez, on va écouter Sylvie.
Je vous le dis à l'avance, parce que, et je vous le dis, vous voyez que je prends mes responsabilités, étant donné qu'elle se fait chahuter à droite à gauche et que le public la prend à rebours. Moi, je vous dis qu'elle est pas si mal que ça.
Mais on va écouter Sylvie Vartan, et puis après, on discutera.
Voilà.
Chalala est une adaptation signée George Haber d'un succès de groupe de rock féminin américain, The Shirelles. Interviewé en avril 1964 à Marseille par Claude Chebel, Gilbert Bécaud prenait la défense de la génération yéyé qu'il a en quelque sorte précédé, suivi en 1958 par Richard Anthony. Tous deux ont ouvert la voie à une véritable vague qui déferle sur la France à partir de 1960, largement inspirée par la révolution musicale à l'œuvre aux États-Unis depuis le début des années 50. Pour ne citer que les figures principales, il s'agit évidemment de Johnny Hallyday, des Chaussettes Noires avec Eddie Mitchell, des Chats Sauvages avec Dick Rivers, de Claude François, et du côté des filles, Sylvie Vartan, puis Françoise Hardy, Sheila et France Gall. Au même titre que les autres idoles des jeunes, Sylvie Vartan bénéficie du soutien de Daniel Filipacchi, créateur de l'émission puis du magazine Salut les copains, dont le tirage atteint rapidement le million d'exemplaires. C'est d'ailleurs pour célébrer le premier anniversaire du magazine qu'il a programmé la fameuse Nuit de la Nation, évoquée dans le précédent épisode. Cet homme de médias se confiera au micro de Jacques Chancel sur France Inter en 1973.
C'est vous, Daniel Filipacchi, qui avez donné sa première chance à Sylvie Vartan?
Oui, Sylvie était la sœur de...
D'Eddie?
D'un garçon, oui, qui était mon assistant à Europe, et je l'ai fait chanter. C'est une fille qui est assez extraordinaire, parce que finalement, elle n'est pas très douée, mais elle est extrêmement intelligente, extrêmement travailleuse. Elle a un goût, surtout, ce qui est très important, parce que le monde est plein de gourdes qui ont des jolies voix et qui sont incapables de mettre ça en application. Sylvie, elle avait certaines difficultés, et c'est pour ça qu'elle a, à mon avis, beaucoup plus de mérite que beaucoup d'autres, parce qu'elle a réussi grâce à son goût. Elle a un sens de la musique formidable. Elle, quand elle entend quelque chose, elle sait tout de suite ce qui est bon. Par exemple, dans le jazz, elle comprend très bien le jazz. Alors, c'était extrêmement amusant de travailler avec elle. Et je me suis occupé d'elle dès le départ. D'abord, c'était une blague, parce qu'elle a chanté un petit truc dans un disque. Elle faisait trois mots. Elle disait trois mots dans un disque. Et puis ensuite, on a commencé à faire sérieusement des petites chansons. Tout le monde disait elle chante très mal. Elle chantait d'ailleurs pas très bien, c'est exact. Mais elle avait quelque chose qui a passé, parce que justement, il y a cette espèce de goût chez elle, d'intelligence et de... Dans ce domaine, évidemment, c'est pas Ella Fitzgerald, mais elle le sait, et elle sait ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait, elle le fait avec goût et avec conviction.
Deux chansons que nous avons entendues sont tirées de l'album de 12 titres enregistré par Sylvie Vartan à Nashville au mois de septembre 63 et sorti en mars 64. Les titres en anglais qui y figurent seront d'ailleurs adaptés par la suite en français pour de nouveaux disques. Nous sommes donc arrivés en 1964 lorsque Sylvie Vartan passe à l'Olympia en compagnie de Trini Lopez et des Beatles. La radio nationale dépêche alors un reporter pour décrire le phénomène. Après le micro-trottoir réalisé à l'entrée du Music Hall, Eddie Vartan, qui veille de près à la carrière de sa petite sœur, répondra à quelques questions de Pierre Havet pour France Inter.
Vous avez déjà vu Sylvie Vartan sur scène ?
Ah oui.
Vous l'avez déjà vue ?
Oui, beaucoup, oui.
Il y a combien de fois déjà ?
Oh, je l'ai vue à toutes les fois qu'elle est passée.
Toutes les fois. Vous connaissez toutes ses chansons ?
Oui, je connais toutes ses
chansons.
C'est
pour elle que vous venez ce soir ou pour l'ensemble du spectacle ?
Je viens pour voir Sylvie, mais je viens quand même pour voir l'ensemble du spectacle.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Sylvie dans le Music Hall et dans le Tour de chant actuellement ?
Bien, je pense qu'elle a fait beaucoup de progrès,
oui.
Et qu'on a quand même été très méchants avec elle.
Indéniablement, et on a eu tort.
Enfin, oui. Je pense quand
vous,
même.
Vous la voyez sur une carrière assez longue, et dans ce style-là, ou vous voyez une évolution autre pour elle ?
Là, j'hésite à répondre, je vais être un peu chauvine parce que je connais Sylvie presque.
Alors soyez chauvine, je vous en prie.
Eh bien, elle a des chances de rester pour la bonne raison qu'elle a été la première fille à chanter dans le style rock en France.
Ça, c'est vrai.
Et c'est un gros atout pour elle, je trouve. Et quoi qu'on en dise, on revient toujours à dire Sylvie Vartan, c'est toujours la première.
Elle a marqué.
Oui.
C'est pour ça qu'elle restera.
Oui, je pense.
Merci, bonsoir. Eddie, il faut bien le dire, Sylvie est arrivée en premier dans cette nouvelle vague. Ça a été la première fille vraiment sympa qui entre dans le jeu des copains. Et je crois que le public lui est reconnaissant de ça. On a posé des questions tout à l'heure dans le hall. Et les gens sont reconnaissants à Sylvie d'être une des premières et de continuer. Ça va continuer longtemps dans ce style ou est-ce que vous préparez une évolution de Sylvie ?
Bien écoutez, vous savez, préparer une évolution, on la subit plus qu'on la prépare.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est quand même difficile d'imposer. Si on s'appelle Aznavour ou Maurice Chevalier, je pense que là, on peut imposer quelque chose. Mais pour l'instant, les jeunes qui sont assez décriés par beaucoup de gens ne peuvent...
À tort, d'ailleurs.
À tort ou à raison.
Parce que ces jeunes ont apporté... Non, ces jeunes ont apporté, comment dirais-je, un matériel nouveau, une clientèle nouvelle, et ont redonné un sang nouveau à la chanson. Le reste de la chanson n'a qu'à se défendre, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, mais... On peut remarquer cela dans le fait que beaucoup de chanteurs jeunes chantent pour la plupart des chansons étrangères et chantent très peu de chansons françaises.
Pourquoi ?
Mais pour deux raisons, parce que, à mon avis, la première, la plus importante, c'est que les compositeurs français, les paroliers français, ont été habitués depuis longtemps à écrire des chansons d'un certain style qui fait la chanson française jusqu'à présent.
Oui.
Et que quand ce phénomène de rock'n'roll est arrivé, la plupart d'entre eux n'étaient pas préparés.
C'est vrai. Et deuxième raison.
Deuxième raison, c'est que il faut dire que dans la mesure où la plupart des chanteurs chantent un style de chanson qui nous vient des États-Unis, il est évident qu'on a beaucoup de choses à apprendre à ce sujet des Américains. Et il faut les suivre avant de pouvoir les
créer
faire soi-même. Oui.
Et évoluer, justement.
Oui.
Ce soir, évidemment, l'ambiance est houleuse, mais merveilleusement houleuse. Et c'est sympathique de vous voir vous battre contre cette foule et, en fin de compte, de gagner, car vous gagnez. Oui, c'est ça qui est important. Vous gagnez avec des chansons qui sont évidemment dans le vent, mais vous gagnez aussi par votre personnalité. Et il y a des gens qui m'ont dit, si quelquefois on n'a pas été gentil avec Sylvie, c'est simplement peut-être parce qu'elle est trop jolie. Et c'est peut-être vrai aussi.
Oh, si, c'est pas
si,
vrai.
Si, c'est peut-être vrai. Mais si, c'est une réflexion extrêmement, croyez-moi, extrêmement pertinente.
Oui. Oh.
Quand on est physiquement un petit peu moins joli, eh bien, les gens n'osent pas vous déchirer d'un cloche, en disant elle est trop jolie, on va l'abîmer un peu.
Oh, je vais me crever un œil.
Voilà. Non, ne le faites pas. Restez comme vous êtes. Vous êtes charmante et vous êtes gagnante.
La, la.
D'entendre une des quelques chansons composées par Eddie Vartan pour sa sœur. En plus de sa carrière de chanteuse, Sylvie Vartan rêve déjà de faire du cinéma. En mai-juin 1964, elle joue un rôle relativement consistant dans le film Patate, réalisé par Robert Thomas avec Daniel Darieux et Jean Marais, qui sortira en octobre suivant. Sylvie Vartan repart ensuite aux États-Unis. Ce deuxième séjour lui vaudra une interview pour le Time Magazine, une apparition dans le célèbre Tonight Show de Johnny Carson sur la chaîne CBS, une participation à un gala organisé pour le Glamour College avec Trini Lopez au Palladium de Broadway, et finalement d'être élue première chanteuse française par le magazine spécialisé Variety. Début 1965, elle effectue sa première tournée mondiale. Turquie, Portugal, Canada, Allemagne, Italie, Japon, jusqu'en Amérique du Sud. Chili, Argentine, Uruguay et Pérou. La presse étrangère la salue comme la nouvelle Brigitte Bardot. Ses disques sont désormais pressés dans de nombreux pays et elle commence à enregistrer dans différentes langues, allemand, italien, espagnol, flamand et même bientôt japonais. Ainsi, en 1965, elle grave à destination du public hispanophone une adaptation de « Il y a deux filles en moi ».
France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
A dos chicas siempre en mí, una canta sin cesar. A dos chicas siempre en mí, y otra tiene que llorar. Cuando piensan en tu amor, una ríe de ilusión, otra vez que por dudar sin risa se quedó. Una piensa que es feliz esperando por tu amor, pues confía siempre en ti con su alegre corazón. Mas la otra pensará que ha llegado su final, al creer que no vendrá si de pena sufrirá. Hay dos chicas siempre en mí, una canta sin cesar. Hay dos chicas siempre en mí y otra tiene que llorar. Pero es su amor igual, siempre inmenso para ti. Y yo sé que existirán dos chicas siempre en mí. Dos chicas siempre en mí.
En mars 1965, Sylvie Vartan retourne aux États-Unis et participe à plusieurs émissions télévisées. Hula Baloo, Shining et surtout The Ed Sullivan Show. Jouissant désormais d'une certaine aisance matérielle, Sylvie a aidé ses parents à acheter un manoir à Loconville, au nord de Paris, dans l'Oise. C'est là qu'aura lieu le 12 avril 1965 son mariage avec Johnny Hallyday, alors que ce dernier effectue son service militaire de 18 mois en Allemagne, à Offenburg, dans l'infanterie de marine. Cet événement médiatique attire toutes les radios, mais ruine tout espoir d'intimité.
Loconville, un tout petit village de la région parisienne, était aujourd'hui en état de siège. On pouvait y voir 30 gendarmes débonnaires aux prises avec une foule de très jeunes gens. Le motif de cette émeute, Jean-Philippe Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday, épousait Sylvie Vartan. La minuscule mairie de Brique-Rouge était trop petite pour accueillir à la fois le maire, les mariés et les photographes. La mêlée fut farouche. Johnny mit 20 minutes pour rejoindre une Sylvie très émue, dont la robe blanche style Empire avait par miracle été épargnée. Johnny, lui, avait troqué avec l'accord de son colonel son uniforme de sergent pour une jaquette noire et un pantalon rayé. Derrière lui, le clan des amis et des impresarios. Le tumulte est à son comble. Il y a des bras, des têtes, des micros dans toutes les directions. Enfin, le maire, Dominique Cohen, visiblement dépassé par les événements, avait pu se frayer un chemin jusqu'à son bureau. La cérémonie pouvait commencer avec une demi-heure de retard.
Monsieur et Madame Vartan, consentez-vous au mariage de mademoiselle Sylvie Vartan, votre fille, avec monsieur Jean-Philippe Léo Smet?
Oui.
Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, ici présente? Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, ici présent?
Oui.
Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage.
Je me suis approché des jeunes mariés.
Johnny, vous êtes marié, vous venez de dire oui. Qu'est-ce que ça vous fait?
Je suis content, j'ai épousé la fille que j'aime. Pour moi, ça... C'est tout.
Et qu'est-ce qu'on pensait des milliers de jeunes filles, elles, qui vous aimaient?
Là, je ne pouvais pas toutes les épouser, il fallait bien que j'en choisisse une.
Sylvie, un jour, en parlant de Johnny, vous avez dit « Je l'aime parce qu'il est intelligent, beau, sentimental, peut-être parce que c'est vraiment un homme. Et aussi peut-être parce qu'à 21 ans, il a eu plus de maison, plus de voiture, plus de fric, bien de type de 40 ans. » À moi que je l'aime parce qu'il est comme moi, même timide et un peu paumé. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça?
Je suis toujours d'accord, oui, sauf pour les voitures.
Pourquoi?
Parce que je trouve ça complètement stupide. Ça, l'amour se compte pas en nombre de voitures, en nombre de maisons.
Ça vous fait maintenant d'être Madame Jean-Philippe Smet?
Je suis très heureuse.
Dehors, les gendarmes contenaient difficilement les admirateurs des deux idoles. Mais heureusement, la distance qui sépare la mairie de l'église est très courte. Après la cérémonie religieuse, monsieur et madame Smet sont partis en voyage de noces. Souhaitons-leur seulement que le temps des copains ne soit pas terminé.
Le numéro de Salut les copains consacré à l'événement bat tous ses records de vente. Après son mariage, Sylvie Vartan continue à enregistrer, notamment cette lettre-là, qui marque les débuts de son travail avec le parolier Gilles Thibault, et Quand tu es là. Ce sera un succès de l'été 65, classé dans différents hit-parades, alors qu'elle effectue sa traditionnelle tournée des plages, complétée par des passages au Maroc et en Tunisie.
Sylvie Vartan, il est important de préciser que vous étiez Sylvie Vartan avant de devenir Madame Johnny Hallyday. Alors, est-ce que le mariage a été une difficulté?
Au départ, c'était une difficulté dans le sens que j'étais beaucoup moins installée que lui quand on s'est mariés. C'est-à-dire que je chantais depuis 2 ans et, je veux dire, mon ascension n'a pas été foudroyante. Je veux dire, j'ai commencé par faire des disques qui n'ont pas tellement bien marché, puis d'autres qui ont mieux marché. Et ça s'est fait petit à petit, alors que Johnny était déjà, enfin, vedette consacrée, disons. Et si bien que j'ai eu du mal les premières années, parce que d'abord, c'est très difficile pour une femme de faire ce métier, enfin, un métier de music hall. De plus, quand on a un mari qui est quand même très connu et qui est un grand nom dans le music hall, c'est 2 fois plus difficile. C'est comme les enfants d'artistes. Ils ont toujours beaucoup plus de difficultés à se faire un nom et à s'imposer que d'autres.
Enfin, il faut bien reconnaître que vous avez tenu un pari dangereux. Vous auriez pu être seulement Madame Johnny Hallyday et vous êtes restée Sylvie Vartan.
Moi, je suis les deux pour l'instant.
Sylvie répondait à Jacques Chancel sur France Inter en 1971. Libéré de son engagement militaire en août 65, Johnny partage alors avec Sylvie l'affiche de l'Olympia. L'une de ces soirées a été en partie captée par la radio. Le programme de Sylvie Vartan comporte une chanson en anglais, Gonna Cry, qui sera adaptée en français sous le titre Toujours plus loin.
Une chanson qui a été composée par deux demi-musiciens, qui sont tous les deux anglais, Mickey Jones en guitare soliste et Tommy Brown à la batterie, qui ont composé pour moi une chanson intitulée Gonna Cry. She tell you lies. Can't she give you love? I can't forget you. I wish that I never met you. I'm sorry that I didn't let you pass me by. She will kiss you. Hold her tight and say she miss you. She'll say this is many other things, just to keep you in her arms. Whoa, whoa, whoa. Whistles blowing, got my ticket on a train I'm going. I'm unhappy and I think it's showing. Oh, come on. She will kiss you, hold her tight and say she miss you. She'll say this is many other things, just to keep you in her arms. Whoa, whoa.
Ces rares captations à l'Olympia au cours des années 60 sont d'autant plus précieuses qu'il n'existe aucun album en public de Sylvie Vartan publié avant 1970. Johnny et Sylvie changent d'impresario, remplaçant Johnny Stark par Jean Ponce. Au début de l'automne 65, Johnny Hallyday repart en tournée à travers la France. De son côté, Sylvie Vartan honore l'ouverture de ses boutiques de prêt-à-porter et de son premier fan-club. Le 12 octobre, Johnny donne avec Sylvie un concert en l'honneur des 10 ans de la radio Europe 1. Début novembre, le couple s'envole pour Londres afin de participer au Royal Variety Performance, gala donné au Palladium en présence de la reine Elisabeth II et du duc d'Édimbourg. Ils sont alors présentés à la reine. Les deux chanteurs apparaissent ensemble dans un show télévisé de Jean-Christophe Averty diffusé le 29 décembre 1965 et en janvier suivant, ils se produisent à Munich. Au cours de l'année 66, Sylvie Vartan enregistrera plusieurs adaptations de récents succès américains fort appréciés, Turn, Turn, Turn des Byrds, The More I See You de Chris Montez ou encore Mr. John B. des Beach Boys, lui-même adapté d'un traditionnel bahaméen.
Cherches-tu sur le quai là-bas? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi. Pour toi, pas de carillonneur, pas de collier de fleurs. Ici, ce n'est pas Tahiti, hey, Mr. John B. Mais qui cherches-tu sur le quai là-bas? On n'attend pas un garçon comme toi. Ton sac à l'air à porter, tu t'es bien débrouillé. Mais as-tu gardé tes mains propres, dit Mr. John B. Cherches-tu sur le quai là-bas? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi.
tu dis je t'aime dans toutes les langues. Oh, Mr. John B. Mais qui cherches-tu?
Au printemps 1966, le tumultueux rocker Johnny Hallyday repart à la conquête du public international en allant chanter au Québec, en Afrique et en Europe de l'Est. Sylvie Vartan, pour sa part, est absente des scènes durant quelques mois pour cause de grossesse et met au monde leur fils David le 14 août 1966. Son éducation sera en partie assurée par la mère de Sylvie durant ses tournées. Ce sera à nouveau le cas dès le mois de novembre en Turquie, puis en février 67 en Espagne et au Portugal. Le premier disque de Sylvie de l'année 67, sorti au mois de mars, comporte un fameux duo avec son ami Carlos, rencontré au début des années 60 dans le milieu du jazz parisien par l'intermédiaire de son frère Eddie et qui est devenu le secrétaire du couple Hallyday-Vartan.
Chaque soir, tu vas chanter, pourtant tu n'es pas vraiment loin de moi. Je ne suis pas tout à fait abandonnée. Si je m'ennuie, je peux retrouver ta voix. J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Ça me donne, quand tu n'es pas là, un petit peu de joie dans le cœur. Oh, je peux m'imaginer que je fais tout ce que je veux de toi. Je te fais redire ce qu'il me plaît et tu me dis cent fois, oh, je n'aime que toi. Le disque est un peu rayé, je l'ai fait jouer tant et tant de fois. Les paroles se sont effacées, mais je devine encore ta voix.
Chaque soir, je veux chanter, pourtant je ne suis pas vraiment loin de toi. Tu n'es pas tout à fait abandonné, et tu sais que je n'aime que toi.
And imagine, ok, io faccio quel che voglio di te. Io faccio dire ciò che piace a me per cento volte. Io penso a te. Questo disco che mi dà 2 minuti di felicità, lo tengo sempre qui vicino a me. Le sere che tu sei lontano da me, e lo stringo qui sul mio cuore.
Ogni sera vado a cantare, però non sono lontano da te. E tu non sei del tutto abbandonata, perché lo sai che io penso a te.
E lo stringo qui sul mio cuore.
Cette adaptation de 2 minutes 35 de Bonheur sera même numéro 1 des ventes en Italie. Carlos évoquera sa création sur France Inter en 1989 avec Christine Lamazière.
Il est pas un peu rayé, oui, le disque.
Ça, c'est bon. Exprès, c'est ouais. Moi qui l'ai rayé exprès. J'ai gravé un souple, j'étais à Londres pendant la séance, j'ai gravé un disque sans rien dessus.
Oui.
Ça, et puis je l'ai frotté par terre, et puis je l'ai remis sur une platine, et puis j'ai enregistré ça juste égratouillé sur une piste, et j'ai mélangé avec la voix que j'avais fait.
Nasillarde.
Hein. Oui, chaque soir. Il y avait plus haute à cette époque-là.
Alors ça, c'est vraiment vos premiers débuts, quoi.
C'est mes premiers débuts sur disque avec Sylvie, ouais. Complètement par hasard, parce que j'étais pas venu dans cette séance pour chanter, j'étais venu pour réaliser le disque avec Jean Renard à Londres. Et puis ça s'est passé comme ça, parce qu'il y avait une petite voix à faire à ce moment-là, il y avait une idée. Donc c'était un instrument au départ et tout, c'était... Et puis on s'est dit pourquoi ce serait pas une voix un petit peu trafiquée, un peu marrante, ancienne. Mmh. Alors les types qui ont essayé, qui étaient là, puis j'ai dit bon, moi je vais faire une petite voix parce que je vois à peu près l'esprit que je voulais. Et puis c'était marrant, ça s'est bien passé, on l'a fait en italien, en anglais, c'est devenu un succès. Alors c'est surtout ça qui a été mes débuts sur scène, parce que grâce à cette chanson, je suis monté sur scène avec Sylvie, au lieu d'être dans les coulisses.
Et être sans garde du corps.
Oui, on sait, c'est une vieille légende.
On disait gorille secrétaire, c'est vrai.
Il n'y a jamais eu de garde du corps, ni de gorille, ni de secrétaire.
Alors,
si,
vous...
de secrétaire, si, bien
ah,
sûr.
Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous fabriquiez avec Sylvie Vartan, alors?
Bah, tout ce que 8 personnes font pour moi maintenant, à peu près. c'est-à-dire la route, les contrats, les galas, s'occuper des musiciens, amener les disques dans les radios, faire les séances, s'occuper de la presse, des rendez-vous, même des robes. Alors ça, j'en ai brûlé quelques-unes.
Quoi ? Repasser les robes de
Sylvie
Vartan ?
Non, pas repasser, ça, je ne veux pas le faire, mais mon oncle va les porter, les mettre de la bagnole dans la loge. Alors, c'est toujours français, j'en ai brûlé des robes qui avaient une fortune.
Lorsque Johnny Hallyday passe en vedette à l'Olympia en mars-avril 1967, Sylvie Vartan, qui est également à l'affiche, vient le rejoindre au final pour un duo en forme de déclaration d'amour. « Je crois qu'il me rend fou » est adapté d'un succès de Ike et Tina Turner, « Such a Fool for You ». Prévu pour 40 représentations, leur spectacle sera prolongé.
France Musique, Tour de chant, Martin Penney.
Je crois qu'il me rend tout ton amour. Je crois qu'il me rend tout ton amour. J'ai envie de le crier. Je rends un mot pour toi et de le chanter. C'est ce qu'a fait contre la voix. Oui, je sais. Je sais. Oui, je sais.
Après leur divorce prononcé en 1980, Johnny et Sylvie resteront très attachés l'un à l'autre. En 1993, la chanteuse reviendra avec tendresse sur ses années de jeunesse avec Johnny à l'occasion des concerts de ce dernier au Parc des Princes où elle sera invitée.
Sur scène, Johnny a invité Sylvie, l'idole des jeunes avec la plus belle pour aller danser. Ils ont vécu ensemble pendant 18 ans. Ils ont formé une sorte de couple emblématique, comme le rappelle Sylvie Vartan à Isabelle Pasquier.
C'est vrai parce que ça correspondait à une certaine époque et puis c'est vrai que on allait très bien ensemble, c'est vrai qu'on était très complémentaires, on faisait le même métier, on avait le même âge ou presque, on connaissait les mêmes enthousiasmes, on était portés par un amour fou des gens de notre génération et c'était très marquant parce que il faut avoir un certain recul pour se rendre compte de ces choses-là parce que sur le moment, forcément, on était percutés par tout ça, par cet amour et c'est vrai que ça nous a beaucoup enrichi et c'est quelque chose qu'on garde comme un soleil en soi toujours. Et c'est cette chaleur et cet amour des gens qui est toujours là, présent. C'est ça qui est extrêmement touchant. Et je crois aussi que c'était le reflet de toute une génération. Je crois que notre génération était une génération gay. Il y avait une franche gaieté, il y avait une fraîcheur, quelque chose d'extrêmement fort et de complètement désintéressé. C'est complètement dilué, c'est différent aujourd'hui. Les jeunes sont beaucoup plus matérialistes, il n'y a plus cette espèce de joie de vivre quelque part. Et c'était typique à ces années-là. Je crois que les années 50 et les années 60, c'était l'âge d'or.
On considère souvent ces années de jeunesse comme un âge d'or, et Sylvie Vartan n'échappe pas à cette règle. Mais il est vrai que le temps d'avant les diverses crises survenues depuis 1968 n'a plus grand-chose de commun avec notre époque. C'est pourquoi on y revient sans se lasser.
Moi, quand je danse, ça ne sert à rien de s'en faire à l'avance. Ah oui, moi, quand je danse, on verra bien demain si c'est mon jour de chance. Partout, on entend des bruits, les gens se font des idées et ont l'air de s'ennuyer. Le bonheur serait-il ailleurs ou ici-bas sur cette terre? J'ai bien peur que le vrai bonheur soit l'instant présent, non pas demain ni hier. Voilà pourquoi je danse. Ça ne sert à rien de s'en faire à l'avance. Ah oui, moi, je danse. On verra bien demain si c'est mon jour de chance.
Cette adaptation des Four Tops, It's the Same Old Song, figure sur un 45 tours de Sylvie Vartan publié en mars 1967. Après leur Olympia commun de ce printemps-là, le couple effectue une longue tournée en Amérique du Sud. À l'automne, Sylvie tourne dans le film Les Ponettes. Elle enregistre au même moment un titre amusant, signé Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois, qui fait référence au film de Charlie Chaplin, Le Kid. Puis elle part enregistrer tout un album à Londres. Ce disque publié chez RCA en fin d'année comprend notamment « Comme un garçon », titre devenu culte pour plusieurs générations. Il y signait Roger Dumas et Jean-Jacques Debout, qui souhaitaient alors emmener Sylvie Vartan vers un style plus musical. Son épouse Chantal Goya en a récemment raconté l'histoire sur France Inter.
Eh oui, ça c'est une époque merveilleuse. J'habitais rue des Saints-Pères, comme je vous l'ai dit, à Paris dans le 7e, et puis à la maison venaient Yves Saint-Laurent, venait Pierre Berger, venait Roland Petit et Zizi Jeanmer parce qu'il allait écrire une grande revue pour Casino de Paris. Et à ce moment-là, Jean-Jacques a eu l'idée parce qu'il avait fait une très grosse tournée dans ses débuts, dans les années 60, avec Marlène Dietrich. Et il y avait Burt Bacharach qui était le chef d'orchestre. Et Marlène habillait en frac noir, c'est-à-dire un pantalon noir avec une veste noire et un chapeau haut de forme. Et ça a donné à Jean-Jacques l'idée de dire à Sylvie, tu devrais t'habiller comme Marlène, avec ce chapeau haut de forme. Moi, j'étais là, j'avais un balai à la main, je balayais l'entrée. Je disais, ah bon, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'écoutais comme une petite souris. Elle m'appelait la petite souris, Chantal. J'écoutais tout, j'en prenais de la graine pendant ce temps, j'emmagasinais tout. Et là-dessus, Sylvie disait, oh, mais c'est génial, je vais m'habiller comme Marlène. Tu me fais une chanson qui va s'appeler comment? Ben, je vais te faire une chanson qui s'appelait Comme un garçon. Et voilà, c'est venu de là.
Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là.
Cette chanson formidable, aux allures de numéro de musical digne de l'héritage de Miss Tinguette, marque un tournant dans le répertoire de Sylvie Vartan. Elle a donc été enregistrée à Londres avec le magnifique arrangeur britannique Arthur Greenslade, dans des circonstances que son compositeur Jean-Jacques Debout racontait à Benoît Dutertre sur France Musique en 2022.
On a été à Londres et c'est là où on est arrivé par Birmingham parce qu'il y avait la grève à l'aéroport de Londres et on a rencontré Greenslade. C'était la dernière chanson de son album et Greenslade nous attendait au Hilton Et là, je lui ai joué au piano. Et 8 jours après, quand on est venu aux enregistrements, il est rentré dans la cabine de son, on dit, du studio. Et il a dit à Sylvie, il a dit, pour moi, la meilleure chanson, c'est celle-là. C'est la dernière que vous m'avez donnée, Sylvie. Et la dernière chanson, c'était celle-là.
Les trompettes, les cordes, tout est merveilleusement fait.
Je trouve
fait.
Que l'orchestration est magnifique.
6 mois plus tard, le tandem Roger Dumas-Jean-Jacques Debout signera un nouveau succès pour Sylvie Vartan, Baby Capone. En février 68, Sylvie entame une nouvelle tournée en Amérique du Sud, cette fois à raison de 2 à 3 concerts par jour, dans des stades de 20 000 spectateurs. Le 8 avril, elle participe à une soirée Musicorama donnée à l'Olympia, où elle se mue en meneuse de revue. Sa discographie comporte de plus en plus de titres originaux écrits pour elle par une équipe d'auteurs dont fait partie le compositeur Jean Renard. On lui doit notamment Sur un fil, Irrésistiblement, Jolie poupée et La Maritza. L'été 68 de Sylvie Vartan est occupé par de longues tournées en Italie, en France, en Espagne, au Brésil et enfin en Grèce. Mais la grande nouvelle, c'est qu'elle va revenir à l'Olympia par la grande porte, comme le confirme son directeur Bruno Cocatrix, fin août, sur France Inter, au micro de Claude Archambault.
Il y a une fille qui a fait un Musicorama l'année dernière et qui l'a réussi d'une façon inattendue. En effet, on pensait que ça n'était peut-être pas une très bonne idée qu'elle le fasse, et contrairement à toutes les prévisions, elle a fait un triomphe, elle avait beaucoup changé, c'est Sylvie Vartan. Alors, Sylvie Vartan, je pensais qu'elle avait aussi le droit à sa chance, d'autant plus que je l'aime beaucoup, et je l'aime beaucoup non seulement pour ce personnage de notre époque qu'elle représente, et qu'elle représente peut-être mieux que n'importe quelle autre fille de son âge, mais parce que c'est une hargneuse, une rogneuse. Il faut absolument, elle aussi, qu'elle arrive, elle s'accroche aux choses, elle a une volonté d'acier, elle travaille comme un cheval, et elle ne s'avoue jamais battue. Et ce côté me touche toujours beaucoup. Alors j'ai dit à Sylvie, cette année tu auras ta tête d'affiche à l'Olympia, il n'y a aucune raison qu'on n'essaye pas. Et je crois aussi que ça marchera très bien, parce que vous savez que j'ouvre toujours les locations 7-8 mois à l'avance, alors j'ai tout de suite une idée sur les programmes qui marcheront le mieux, et bien celui de Sylvie est un de ceux qui marcheront le mieux.
Du 3 au 9 décembre 1968, Sylvie Vartan est donc en tête d'affiche à l'Olympia, en vraie meneuse d'un spectacle mis en scène par Arthur Plachert, où tout est réglé dans les moindres détails. La nouveauté pour l'artiste réside dans les chansons dansées, dans la vraie tradition du musical, et le résultat est salué par les critiques.
Ah bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec un escalier à part le descendre? Je trouve qu'à mon âge, c'est drôle d'avoir un escalier. Non mais je dois dire que c'est un escalier moderne. Il est tout transparent, il y a des petites lumières qui brillent et tout.
Je
cours de ce spectacle, Sylvie Vartan fait venir sur scène son ami Carlos, déguisé en gentleman avec chapeau melon, pour un nouveau duo inattendu composé par Jimmy Walter.
Un petit peu beaucoup, je voudrais me pendre à ton cou.
Me pendre à mon cou ?
Sans te fatiguer, tu pourrais me rendre tout plein de baisers.
Oh, des baisers.
Un petit peu beaucoup, je voudrais me pendre à ton cou.
Me pendre à mon cou ?
Nous pourrions entendre nos cœurs chanter en cœur.
Chantons en cœur.
Sur tes
genoux,
tu pourrais, chérie, me couvrir de mots doux.
Oh, des mots doux.
Un petit peu beaucoup, je voudrais me pendre à ton cou.
Bien sûr, bien sûr.
Et avec paresse, je pourrais te rendre de chaudes caresses.
D'accord.
Un petit peu beaucoup, je voudrais me pendre à ton cou.
Je vous en prie. Donne-nous au printemps.
Tu pourrais me faire une douceur d'enfant.
Ouh.
Un petit peu beaucoup. Ils voudront se pendre à nos coups.
Se pendre à nos coups.
Nous pourrions entendre le cœur chanter en cœur. Un petit peu beaucoup. Ils voudront se pendre à nos coups.
Se pendre à nos coups.
Nous pourrions entendre le cœur chanter en cœur.
Au cœur bonheur.
Nous pourrions entendre le cœur chanter en cœur.
Cet Olympia comporte également la création sur scène de la Maritza, écrite par Pierre Delanoë et composée par Jean Renard. Ce titre, où la chanteuse raconte son histoire, fait partie d'un album arrangé par Jean-Claude Vanier, sorti en novembre 1968. Il deviendra également un tube au Japon, en version française et même japonaise.
Nocete yurushite okure watashi wa machi de ikiru koto ni oware nagara kurasu la la
Nous retrouverons Sylvie Vartan la semaine prochaine et il sera notamment question de son évolution scénique vers de grands shows à l'américaine. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster ces émissions sur l'application Radio France et sur le site de France Musique. Tour de chant, une émission de Martin Penet avec le concours d'Isée Echorn à la préparation, Pierre Monteil à la technique et Fanny Constant à la réalisation. Merci à Mylène Touchet pour les archives de l'INA.
France Musique.